Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Dans la famille des collectionneurs les plus prolifiques de l'histoire, elle est la reine incontestée de la discipline. Autocrate éclairée, admiratrice des philosophes et des artistes occidentaux, elle a fondé le prestigieux musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg grâce à l'extraordinaire collection qu'elle est parvenue à rassembler au cours de son règne. Je vous raconte maintenant l'impératrice de Russie, Catherine II, la grande Catherine, la grande collectionneuse d'art aussi. Que Saint-Pétersbourg est belle à l'automne, lorsque tombent les feuilles qui viennent frôler ces édifices grandioses, qui deviendront à la neige tombée dans quelques semaines à peine, palais de glace surgit des eaux. Il y a 2 siècles et demi, la Venise du Nord était déjà grandiose en cette saison. Et c'est avec émerveillement, quoique dans un état de fatigue extrême, que Denis Diderot la découvrit pour la toute première fois, au début du mois d'octobre 1773. À tout juste 70 ans, le philosophe français des Lumières, d'ordinaire si casanier, vient de faire un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour venir depuis Paris. 4 mois durant, il a supporté les chaos de la route et l'inconfort d'une voiture à cheval. Pourquoi s'infliger un tel périple ? Il a déjà prouvé à maintes reprises, il ferait n'importe quoi pour celle qu'il est venu voir ici. Cette femme qui a changé sa vie voilà 8 ans de cela, celle qui a fait de lui un homme prospère, Catherine II de Russie. L'impératrice commençait à désespérer de le voir un jour. 10 ans qu'elle invite l'encyclopédiste à venir la rejoindre à Saint-Pétersbourg. Et le voilà enfin, cet esprit qu'elle admire tant et cet homme grâce à qui elle a pu récemment obtenir un trésor qui a tant de valeur à ses yeux. Quelle acquisition incroyable que ces 17 caisses que Diderot lui a fait envoyer il y a presque un an maintenant. 17 caisses contenant la prestigieuse collection de peintures du financier Pierre Croza. Au total, pas moins de 400 tableaux, parmi lesquels de très grands chefs-d'œuvre de toutes les écoles et de toutes les périodes. Des toiles de grands maîtres de la Renaissance italienne, la Madone et Saint-Joseph Humbert de Raphaël, l'un de ses Saint-Georges, son cardinal Paul aussi, une Judith de Giorgione, une descente de croix et un Moïse sauvé des eaux de Véronèse, et le portrait de jeune fille du Titien. Des toiles flamandes et néerlandaises du XVIIe aussi, la Danaïde de Rembrandt, des Van Dyck, des Rubens et bien sûr des toiles françaises, Clouet, Poussin, Lancret, Le Sueur, de tout pour la somme faramineuse de 460 000 livres. Enfin, des broutilles pour la tsarine. Car la puissance financière de Catherine II est immense. Un argent qui lui sert à acheter et commander tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Des livres, des tableaux, des gravures, des statues, des sculptures. Tout ce qui peut renforcer le prestige de son pays, cette Russie encore perçue comme barbare par l'Occident et qu'elle rêve grande puissance européenne. Un argent dont elle sait en outre se servir habilement et qui lui sert aussi à s'arroger la confiance et la fidélité de gens habiles et bien placés. Des diplomates, des antiquaires, des hommes de lettres, partout en Europe, qui usent de leurs contacts et de leur position pour lui obtenir ce qu'elle veut. Denis Diderot est l'un des fleurons de ce réseau. Le philosophe, également critique d'art, n'est pas le seul, ni même le premier, à avoir remué ciel et terre pour assouvir la soif inétanchable de sa bienfaitrice pour les arts. Des collections majeures, elle en a acquis d'autres grâce au même stratagème, la superbe collection du comte Cobenzl en 1767, ou celle plus prestigieuse encore du comte allemand Heinrich von Brühl en 1769. Cette boulimie d'acquisition a commencé au tout début de son règne, en 1764. Cette année-là, un marchand d'art prussien, un certain Gostkowski, paye ses dettes en lui cédant une partie de sa collection de tableaux. Catherine II devient collectionneuse, la plus redoutable de toutes. Les œuvres qu'elle achète par centaines, elle les stocke au petit ermitage, petit palais qu'elle s'est fait construire à côté du palais d'hiver, sa résidence. Dans cet endroit où elle aime se retirer, sa galerie d'art est d'abord réservée aux seuls yeux de sa cour. Cet embryon de ce qui deviendra un jour l'un des plus grands musées du monde, sans doute la montra-t-elle à Diderot lors de son séjour en 1773. Et sans doute a-t-il pu y admirer à loisir certains des plus grands chefs-d'œuvre déjà en sa possession. Percée délivrant Andromède de Rubens, Le retour du fils prodigue de Rembrandt, Trois hommes à table, Le déjeuner de Velázquez ou encore Vénus et Cupidon de Cranach l'Ancien. Mais si Diderot a fait le déplacement jusqu'en Russie, ce n'est pas pour admirer ses œuvres, si prestigieuses soient-elles. Et si Catherine II a tant insisté pour qu'il vienne, ce n'est pas seulement pour parler d'art. l'impératrice s'intéresse de près à la pensée philosophique et politique de Diderot. Et pendant ce séjour, plusieurs fois par semaine, elle s'entretient de longues heures avec lui, écoutant attentivement ses opinions sur divers sujets de société. Car la grande Catherine voue depuis toujours une grande admiration aux intellectuels français. Dans sa jeunesse, elle a profondément été marquée par les écrits de Pierre Bayle, de Voltaire et de Montesquieu. Quelle aubaine pour Diderot, qui espère que cette oreille attentive que lui prête la tsarine soit un moyen de propager les idées des Lumières sur ce territoire aux confins de l'Europe. Après tout, Catherine II est une souveraine éclairée, mécène des arts et de la littérature. Son grand intérêt pour les lettres et la pensée des Lumières ne peut qu'influer positivement sur sa politique. À lui de l'encourager dans cette voie et de subtilement lui faire adopter ses idées fondamentales et de rupture, abolissement du servage, création d'un tiers-État. Mais en réalité, c'est d'oublier qui elle est et d'où elle vient. Car la tsarine n'est pas femme à se laisser dicter sa conduite. Oh non, ce qu'elle est, elle l'a forgée. Elle s'en est saisie par la force même. Elle qui n'a pas une goutte de sang russe dans les veines. Née sous le nom de Sophie Augusta Frédérique d'Anhalt-Zerbst, la future Catherine II est à l'origine une princesse allemande que rien, hormis une très lointaine parenté, ne prédestinait à ce destin. Et pourtant, à 15 ans, contre toute attente, c'est elle qu'Élisabeth Ière, la fille de Pierre le Grand, choisit pour épouser son héritier désigné, le chétif et futur Pierre III. Sans doute ne craint-elle pas de la part de cette lointaine cousine une quelconque menace. Le calcul est mauvais. Car la jeune Sophie, rebaptisée Catherine Alexeïevna lors de sa conversion à l'orthodoxie, est un esprit vivace et zélé, plus russe que les Russes. Et lorsque son mari hérite du trône en 1761, mari qu'elle exècre, il n'y faut que quelques mois pour fomenter un coup d'État victorieux contre lui. Catherine l'a bien compris. En Russie, les lignées se font et se défont. Mais son pouvoir, à elle, ne souffrira pas de contestation. Très instruite et très sensible aux courants de pensée les plus nouveaux, la souveraine n'en est pas moins une main de fer dans un gant de velours. Certes, elle veut moderniser la Russie et ainsi poursuivre l'œuvre débutée par Pierre le Grand au début du siècle, mais elle ne veut surtout pas remettre en question le pouvoir autocratique. Car si en effet Catherine II projette une réforme dès 1765 et rédige même un traité de philosophie politique aux accents progressistes, connu sous le nom de Nakaz, son règne sera au final marqué par un véritable durcissement politique à l'intérieur du pays. Plus de pouvoir aux nobles, répression féroce des révoltes populaires et même extension, voire aggravation du servage. Son masque tombe à la Révolution quand, sentant le danger que représentent ces bouleversements, elle réprime les auteurs russes aux idées libérales. Il n'en reste pas moins que la grande Catherine a fait beaucoup pour la grandeur de la Russie, du développement du commerce et de l'industrie à l'expansion du territoire, en passant par la construction de villes nouvelles et de monuments grandioses. Et bien sûr, le rayonnement culturel de son pays. En améliorant le programme de l'Académie des Beaux-Arts, qu'elle renomme Académie impériale des Beaux-Arts, l'impératrice pave la voie au futur grand maître de la peinture russe. Et que dire de l'Ermitage ? S'il abrite aujourd'hui la plus grande collection de tableaux au monde, avec plus de 16 000 toiles, c'est à elle que la Russie le doit. Lorsqu'elle meurt en 1796, la galerie impériale rassemblait déjà près de 4 000 tableaux, 7 000 dessins, 80 000 gravures et 10 000 pierres gravées. Rien que ça.
Europe 1, historiquement vôtre.